Radio Cassine, grand témoin. Ancien ambassadeur de la RDC en France et ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le gouvernement de la transition. Actuellement, il est sénateur. Raymond Ramazani Baya et c'est lui le grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Monsieur Raymond Ramazani Baya, merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Avec vous dans cette émission, nous allons vous faire découvrir auprès de nos auditeurs. C'est vrai que les Congolais vous connaissent déjà, mais superficiellement. Dans notre entretien, nous allons leur donner l'occasion de vous connaître un peu plus en profondeur. Nous allons également analyser l'actualité avec vous. Ça sera dans la deuxième partie de notre entretien. Commençons d'abord par vous découvrir. Vous naissez un certain 17 juin 1943. Dans quelle ville?
Dans la ville de Beni, c'est dans le nord Kivu, chez mes frères Nandé. Malheureusement, je ne suis plus jamais revenu. Je suis originaire de la province orientale. Nous sommes voisins du nord Kivu, comme vous le savez. Et dans la province orientale, je suis du Bazouélé, et plus particulièrement du territoire de Bambessa.
Et c'est à Beni que vous faites vos études primaires et secondaires?
Non. J'ai quitté Beni, j'avais, je crois, moins de 3-4 ans. Donc, c'est pas une ville que je connaisse vraiment. J'ai été avec mon père, encore très jeune, au Kenya. Je suis de religion musulmane. J'ai commencé mes études à Mombasa, au Kenya.
Dans et votre nom musulman, c'est quoi?
Mais Ramazani est un nom musulman.
Ah, d'accord.
C'est un nom tellement courant que beaucoup de Congolais oublient que c'est un nom musulman. Donc, j'ai commencé vraiment dans une école coranique, mais très vite, nous sommes revenus. Et j'ai commencé mes études à Bouta, qui est la capitale du Bazouélé, où j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires. J'ai terminé mes études secondaires en 64, juste avant la rébellion, donc le temps de pouvoir obtenir son diplôme. Et en 65, j'allais en France pour des études de journalisme. Je fais 2 ans en France et je reviens au pays en 1967 comme journaliste à la télévision.
Comment avez-vous grandi? Dans quelles conditions?
Oh, je crois que j'ai eu une enfance tranquille, même si mon père est mort, j'étais très jeune. Donc j'ai grandi en partie avec ma mère, en partie avec mon oncle paternel. J'ai été envoyé rapidement à l'internat. J'étais un enfant assez fragile parce que vous savez, un enfant qui perd son père très jeune, ça les fragilise toujours sur le plan psychologique, mais entouré de beaucoup d'amour et d'affection, j'ai pu surmonter cet handicap. Et
je crois que
je suis fils aîné, j'ai 2 sœurs, 2 demi-sœurs en fait, de mère. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'ai été envoyé assez tôt à l'internat. La compagnie d'autres enfants de mon âge, livrés sans défense, j'étais obligé très vite à apprendre comment me défendre tout seul. Et cet internat, pour ceux qui l'ont vécu, était extraordinaire. Il y avait la discipline, mais une discipline très souple. C'était l'école Notre-Dame médiatrice. C'est une des meilleures écoles, en tout cas à l'époque, de toute la province orientale. C'était ouvert pratiquement toute l'élite de la province orientale. Avant les années 1950, on étudiait à Bouta, à l'école Notre-Dame médiatrice, chez les frères maristes.
Vous êtes marié et père de 6 enfants qui vivent au Congo?
Mes enfants, pour le moment, il y en a un qui est là, mais tous sont en Belgique et en France. Il y en a un qui étudie en Inde, mais je pense qu'ils vont pouvoir revenir certainement.
Après votre licence en journalisme, en 1974, vous obtenez une autre licence en politique diplomatique de l'Université libre de Bruxelles.
Oui.
Pourquoi 2 licences, Ramazani Baya?
Ah, il faut faire attention. 65, 67, je suis parti en France. C'était pas pour une licence. C'était dans une école plus ou moins professionnelle qu'on appelait à l'époque OCORA, Office de coopération radiophonique, qui dépendait à la fois de l'ORTF à l'époque en France, qui était la chaîne publique, qui n'avait pas encore plusieurs chaînes, il y avait une seule chaîne, qui, avec le ministère de la coopération français, avait créé cette école qu'on appelait l'OCORA, qui recevait des jeunes gens de 20, 25 ans, venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, et qui les formaient concrètement.
C'était un centre de formation.
C'était un centre de formation qui durait. La formation durait 2 ans. On est revenu, j'ai travaillé à la radio, à la télévision en particulier. J'étais tout jeune à l'époque, hein. Pas la barbe blanche, pas les cheveux blancs. Donc les gens qui m'ont vu à l'époque, qui me voyaient aujourd'hui, ne me reconnaîtraient pas tout à fait. C'était une très belle époque de journalisme, beaucoup de passion, beaucoup de professionnalisme aussi. Ça venait de commencer, nous avions commencé la télévision au Congo en fait. Et moi j'avais envie d'en sortir, donc je suis allé en Belgique, où là je fais une licence en journalisme en même temps que une licence en sciences politiques et diplomatiques.
C'était au même moment ?
Au même moment.
Et comment ça se passait ?
Oh, vous savez, les études en sciences politiques et journalisme, c'est pas très exigeant quand on est un peu organisé, qu'on aime ça. On peut le faire, on peut combiner ça sans aucun problème. Et tout de suite après mon diplôme, j'ai pu faire une maîtrise, master à l'époque on disait, en...
L'administration publique.
Administration publique, administration et finances publiques.
Pour rêver un jour d'occuper des hautes fonctions dans ce pays ?
Je n'ai jamais rêvé d'occuper des hautes fonctions. Je pensais que je serais un haut fonctionnaire, certainement, quelque part. Dans le ministère de l'Information, sans doute, ça a été le cas d'ailleurs. Parce que quand je suis revenu en 74, très vite, j'ai gravi les échelons de l'agence congolaise de presse. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, je me suis passionné. C'est une forme de journalisme que j'adore parce que c'est fondé sur le fait, les commentaires viennent après, et c'est une position qui vous donne vraiment la possibilité d'être réellement informé. C'est vraiment la cheville ouvrière de la presse. C'est dommage qu'aujourd'hui, l'agence congolaise de presse n'occupe plus la place que la ZAP a occupée dans le temps.
Radio Capitaine, grand témoin.
L'invité des grands témoins aujourd'hui est Raymond Ramazani Baya, ancien ambassadeur de la RDC en France et ancien ministre des Affaires étrangères et coopération internationale dans le gouvernement de la transition. Il est actuellement sénateur. Parlons de votre parcours professionnel. Vous le passez en grande partie dans le monde diplomatique et dans le monde des médias. 6 ans en poste à Paris en qualité d'ambassadeur, représentant de la RDC à l'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie. On dit de vous que vous avez une bonne connaissance de la presse francophone. Vous avez travaillé dans des chaînes francophones ?
J'ai quand même travaillé un peu dans un journal francophone international, Jeune Afrique. À l'époque, après avoir quitté mon poste d'ambassadeur, j'ai dû rester en France pour des raisons politiques essentiellement, avec l'arrivée du nouveau régime ici. Je ne voulais pas rentrer à ce moment-là, donc je travaille à un moment donné à Jeune Afrique. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai une bonne connaissance de la presse francophone. En tant que directeur de la rédaction de l'Agence congolaise de presse, j'ai pris une part active à la création de l'Agence panafricaine d'information. J'ai pu, je crois, voyager pratiquement dans toute l'Afrique pour préparer la création de l'Agence panafricaine d'information. Et à l'époque, les agences africaines avaient énormément de contacts avec, entre eux. Ça m'a permis, tous ces voyages que j'ai, qui m'ont conduit aussi bien en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Éthiopie et à l'Égypte, d'abord de découvrir les agences de presse africaines, que je connais bien, je prétends avoir une bonne connaissance. Et comme je vous l'ai dit, les agences de presse sont la cheville ouvrière de la presse. Quand vous maîtrisez les agences de presse, ça vous permet d'avoir une bonne ouverture sur toute la presse. Et je pense que j'ai une bonne connaissance de ce monde-là, grâce à mes voyages, grâce à mes contacts avec les agences de presse africaines, presque toutes. Et en réalité, j'ai été longtemps doctorant, que j'ai abandonné, mais je peux le faire encore maintenant, à l'IFACIC peut-être, où je préparais une thèse en matière des agences de presse africaines.
Oui, vous avez participé activement à la création de l'agence panafricaine.
D'information,
oui. À l'époque, c'était une grande agence, mais actuellement, est-ce qu'elle existe toujours, cette agence ?
La PANA existe toujours. La PANA existe toujours. Je pense même qu'elle fonctionne bien. C'est dommage.
Mieux qu'à votre époque ?
Mieux qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'à notre époque, c'était encore les agences de presse nationale qui participaient avec leurs propres services. Et la PANA les diffusait telle qu'elle. Alors vous aviez des longueurs de dépêches incroyables. Vous donnez l'information directement. Vous aviez tous les détails, des pubs, des propagandes et tout ça. Par contre, aujourd'hui, la PANA, qui a retrouvé le chemin du professionnalisme, arrive à résumer très bien les dépêches. Et comme les agences de presse nationale aussi ont plus ou moins abandonné cet aspect démagogique et propagande et font vraiment le travail de l'information, la PANA qui récupère ces dépêches et le retravaille une deuxième fois, le traitement de l'information fait qu'aujourd'hui, les dépêches de l'Agence panafricaine de l'information sont des dépêches professionnellement tout à fait valables et compétitives comparées à celles de Reuters ou de l'Agence France Presse. Mais le problème, c'est que la presse africaine est en pauvre. Elle n'arrive pas à s'abonner. Les milieux politiques non plus n'aident pas beaucoup la Panama. Ce qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup. En dehors des professionnels et des gens qui suivent vraiment, on a l'impression que ça n'existe pas. Mais en réalité, ça existe. C'est comme l'ACP. L'ACP existe, vous le savez bien.
Ouais.
Mais vous utilisez de moins en moins les détaches de l'ACP. Et ça, c'est triste.
Et à votre avis, c'est pourquoi ?
Il y a plusieurs raisons. Je crois que d'abord, le pouvoir politique n'a pas compris l'importance de l'Agence Congolaise de Presse. Alors que c'est un outil extraordinaire pour mettre fin aux rumeurs. L'agence de presse a une méthode de travail qui lui permet de contrôler avec beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme, chaque information. Ce qui fait que ce qui se passe aujourd'hui dans la presse congolaise, si l'ACP était puissante, on n'aurait pas autant de rumeurs. Parce qu'à chaque fois, les gens se référeraient pour chaque information à l'ACP, qui, elle, n'a pas de parti pris, n'a pas de contact ni avec le gouvernement, ni avec les partis politiques d'opposition. Nous remettrait à chaque fois l'information dans sa réalité factuelle, le fait. C'est ça l'agence de presse. Mais elle est négligée complètement. Vous avez donc la situation de la presse qui est aujourd'hui déplorable, ça je le dis. Et c'est comme ça que je milite, que j'ai toujours milité, pour que la ZAP non seulement soit soutenue, mais que la presse nationale puisse s'abonner massivement, que les services de l'État puissent s'abonner.
Raymond Ramazan Mbaya, qu'est-ce que vous attirez en politique ?
Oh, je dirais que je suis arrivé en politique un peu par hasard. Donc, de mon retour en France, j'ai commencé à l'ACP. J'ai pu monter rapidement les différents échelons, rédacteur en chef, directeur des informations. J'ai été nommé directeur général, c'était déjà à l'époque, en 1982. Et à l'époque, nous étions tous membres du mouvement populaire de la Révolution. Et je vais vous dire une chose. Le président Kengo est encore là. Il était premier ministre en 1985, lorsque le président Mobutu décide de me nommer membre du gouvernement. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas voulu.
Pourquoi ?
Parce que je pensais que mon travail, c'était le travail des journalistes, que je devais rester à l'agence congolaise de presse, à la ZAP. Et je me trouvais bien à la ZAP. C'était un travail que j'aimais faire.
Et que vous avez quitté après, par après ?
Non, mais j'ai quitté parce que j'ai été nommé ministre. Le président me nomme ministre.
Vous entrez au gouvernement comme ministre de l'information ?
Alors oui, alors c'est Mokolo, le sénateur Mokolo qui m'annonce, il dit voilà, le président veut te nommer. Je dis mais non, écoute, moi je suis bien à la ZAP et tout. Après c'est le fils du président, Niwa, qui m'annonce, et je lui dis la même chose. Et tous les deux me disent non, il est trop tard, il t'a déjà nommé de toutes les façons. Ce que tu fais à la ZAP, tu le feras aussi bien au gouvernement. C'est comme ça qu'en 85, après avoir été élu président de l'Union de la presse d'Isaïe, en 84, j'entre au gouvernement en 85. C'était la mort d'Alam. Je ne dis pas que je n'aimais pas le poste de ministre, mais j'aimais plus le poste que j'occupais à la tête de la ZAP. Ceux qui me connaissent bien savent que je n'étais pas très heureux d'entrer au gouvernement et que j'aurais préféré rester à la tête de la ZAP.
Vous pouviez démissionner, non ?
Oui, mais enfin, bon, je ne dirais pas que j'étais malheureux d'être nommé ministre.
Mais vous n'étiez pas à l'aise là-bas, vous préfériez rester à la ZAP.
Je me suis retrouvé très vite tout à fait à l'aise, mais disons que professionnellement, j'ai perdu quelque chose par rapport à ma position de directeur général de la ZAP. J'ai construit quelque chose avec des collègues avec qui on a grandi ensemble, avec des amis. Je me suis fait beaucoup d'amis. Et disons que c'était un placement au cœur quand même que j'ai quitté la ZAP. Dites-vous bien que lorsque quelques années plus tard, j'ai quitté le poste de ministre, c'était aussi avec un placement au cœur. Donc on s'adapte à tout finalement. L'homme, comme on dit, est l'animal qui s'adapte le mieux à toutes les situations.
Et c'est en ce moment-là que vous avez commencé à vous familiariser, à vous imprégner de la politique.
Oui, mais vous ne pouvez pas être ministre sans aimer un tout petit peu la politique. C'est quand même une fonction qui vous permet d'être utile, de rendre service, d'organiser des services, n'est-ce pas ? C'est une position d'action pour réagir. Vous avez plus de possibilités d'agir qu'en étant à un rang purement administratif. Donc, de ce point de vue-là, la politique est quand même intéressante. Même si, bon, il y a des dérapages, il y a des dépravations, mais dans l'ensemble, je crois, ma conception de la politique, c'est d'abord arriver à agir, organiser, changer les choses, modifier les choses et être utile.
Et après le ministère de l'Information, vous êtes nommé conseiller principal à la présidence de la République chargé des dossiers socioculturels, puis ambassadeur.
C'est cela.
Et en 1999, vous rejoignez le maquis du MLC à l'Équateur.
Tout à fait. Mais écoutez, tel que se présentait la situation politique de l'époque, on était à un blocage. Nous estimions que nous retournions à la dictature d'un groupe d'hommes qui avait pris le pouvoir par la force et qui estimait donc être en mesure et en droit d'imposer leur pouvoir. Face à cela, il fallait leur opposer la force. La seule façon, c'était de s'organiser. On ne pouvait pas agir seul. Je rejoins Bemba, que j'ai connu très jeune. Je connais sa capacité d'action. Je connais sa vision. Donc, beaucoup d'amis l'avaient rejoint. Et je n'ai pas hésité une seule seconde de le rejoindre. Et malgré la dureté de la vie à l'époque, à Guadeloupe, c'était une époque passionnante. Nous étions là, un groupe de patriotes, d'amis, beaucoup étaient plus jeunes que moi, même si certains avaient le même âge que moi. Je pense à Lunda, je pense à Tambwe, mais il y avait là aussi le ministre Mwamba, François, Luaka et d'autres, Sisanga et Kamitatu, bien sûr, qui était notre secrétaire général à l'époque, n'est-ce pas? C'était un groupe solide, nous étions solidaires, on avait tous une certaine vision du rétablissement de l'unité du pays et de l'instauration de la démocratie et du rétablissement de l'État sur l'ensemble de la République. Et surtout mettre un terme à la mainmise de l'étranger sur le pays.
Vous êtes sûr qu'il y avait une mainmise de l'étranger sur le pays?
C'est une évidence.
Vous nous avez cité les noms des personnes avec qui vous étiez dans les maquis actuellement, qui ne sont plus avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben écoutez, personne n'est obligé de rester éternellement dans un parti, hein, pour des raisons personnelles. Ils ont estimé ne plus pouvoir continuer avec nous. Certains, sincèrement, je crois, avaient un certain nombre d'idées personnelles, mais d'autres, c'est par pur opportunisme, malheureusement. On ne peut pas empêcher quelqu'un de ne penser qu'à ses intérêts. Ça a été le cas pour beaucoup, malheureusement. D'autres, peut-être que c'est sur le plan idéologique, mais personnellement, je pense qu'un minimum de constance dans la vie politique, un minimum de fidélité est important. Il peut y avoir des divergences dans un même parti, il faut en discuter. Quand il y a un minimum de base qui vous permet d'être ensemble, je crois qu'il est bon pour la démocratie et pour soi-même d'avoir un minimum de constance.
Comment se porte le MLC aujourd'hui?
Écoutez, le MLC se porte bien, il pourrait se porter mieux, mais comment voulez-vous qu'il se porte très bien à l'absence de son principal leader? Comment voulez-vous qu'il se porte bien lorsque plusieurs de ses membres l'ont quitté?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein du parti?
Dans tous les partis. Même dans les familles, toujours quelques problèmes. Mais contrairement à ce que beaucoup ont pensé ou espéré, le MLC n'a pas éclaté. Le MLC est là, il garde toute sa vigueur. Il faut évidemment lui donner de nouvelles raisons, il faut des nouvelles directives, il faut mobiliser de nouveau l'opinion. Ça viendra, ils nous font un congrès. Nous ne désespérons pas du retour de notre leader national s'il revenait. Nous pensons qu'il va revenir, puisqu'il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas. Mais quand bien même, il y a du monde au MLC, que ce soit à Kinshasa ou en province. Donc, il n'y a aucun problème. Le MLC reste un des principaux partis de ce pays, en tout cas le principal parti de l'opposition parlementaire. Et nous pensons qu'il retrouvera petit à petit sa place comme leader au sein des partis politiques du Congo.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Parlons actualité, c'est la difficulté d'obtention des passeports biométriques. Vous avez été ministre des Affaires étrangères. Comment on peut expliquer cette difficulté d'obtenir des passeports biométriques? Est-ce que c'est parce que c'est le fait que ça s'appelle biométrique que ça devient un peu compliqué ou quoi?
Non, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. Moi, je reviens de France.
À l'intérieur, tout comme à l'extérieur.
Je reviens de France, il y a des problèmes inexplicables. Des gens qui veulent se déplacer pour des raisons professionnelles, qui n'arrivent pas à le faire. En Belgique, il n'y a pas longtemps, je pense qu'ils ont presque pris l'ambassade d'assaut. Et en province, vous recevez tout le temps de messages parce qu'on a fait croire qu'on pourrait distribuer des passeports partout. Tout cela reste un objectif réel. Mais il faut vous dire que le passage du passeport classique, traditionnel, au passeport biométrique, en fait, il n'est pas biométrique, ce passeport. Ça, il faut le préciser. Il est semi-biométrique. Un passeport biométrique, la photo est incrustée. Ça, c'est un élément. Il y a un deuxième élément qu'il faut pour un passeport biométrique. Il faut qu'il y ait une puce. Et dans la puce, on retrouve toutes les informations concernant l'individu. Là, c'est un passeport biométrique. Lorsqu'il n'y a que la photo, qui est une condition importante, hein, la photo, mais nous n'avons pas encore la puce qui doit pouvoir intégrer toutes les informations qui vous concernent. Ce n'est qu'un passeport semi-biométrique. C'est vraiment un passage important au point de vue qualité. On passe à autre chose. C'est aussi une technologie compliquée. Il faut la maîtriser. On ne l'a pas encore maîtrisée. Il faut du temps. Ça nécessite un certain temps pour que le personnel qui a été formé mais se fasse véritablement la main à ces nouvelles techniques. Ce n'est pas encore le cas. Donc, les gens trouvent que le délai est long. Et c'est vrai que le délai est long.
Passeport biométrique ou semi-biométrique, oui. À votre époque, déjà, on en parlait, non ?
Mais ce sont des choses que nous avions conçues déjà à notre époque, n'est-ce pas ? Et la continuité de l'État. Nous avions commencé, Moussa a continué, et aujourd'hui, Tamboué a réalisé. Alors, le problème qui se pose, c'est, je ne connais pas les raisons qui ont poussé le ministre à déterminer le délai de validité. Très amicalement, j'ai dit au ministre que j'aurais laissé plus de temps pour la validité de l'ancien passeport tant qu'on n'était pas encore sûr de la maîtrise de ces nouvelles technologies. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que les gens ont leur passeport, mais quand ils vont demander un visa, on leur dit non, votre passeport n'est plus valide. En même temps, ils ne peuvent pas avoir le nouveau passeport. Il y a l'aspect technique, j'ai dit, qui allonge le délai, mais aussi les mauvaises habitudes que les gens ont prises. Vous savez, tous les fonctionnaires congolais, ils vivent un peu de ce qu'ils font. Les passeports, ils coûtaient 75$ à mon époque, mais on les vendait à 150. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une longue file d'intermédiaires. Chacun prenait 10$, 5$ par-ci et par-là. Donc, toutes ces mauvaises habitudes aussi, il faut les abandonner petit à petit.
C'est difficile quand on n'est pas bien payé.
C'est difficile. Exact. C'est ce que nous disons toujours au Sénat. Si on veut avoir une administration, il faut bien payer les agents. Comment voulez-vous quelqu'un qui touche 80$, il paye un loyer de 100$ ? Qu'il a 4 enfants, puisse accepter le salaire de 80$. Donc, il est obligé d'arrondir ses fins du mois. Et je crois qu'il faut avoir une approche globale. C'est dire aussi que ces fonctionnaires, il faut améliorer leur situation. On peut s'imaginer que tout Congolais puisse avoir un passeport. Donc, on s'est dit, on va le vendre, par exemple, à $50. $50, si vous avez 20 millions de Congolais, un tiers de la population congolaise qui achète un passeport, ça vous fait 1 milliard. C'était l'idée qu'on se faisait à l'époque, démocratiser le passeport. Mais compte tenu sans doute du coût de ce passeport et d'autres contraintes, ça n'a pas été possible. Mais toujours est-il que, en l'absence de toute pièce d'identité nationale, moi je ne désespère pas que le passeport puisse devenir un jour ou l'autre la principale pièce d'identité du pays. Le prix actuel, qui correspond sans doute aux frais et aussi aux dépenses que le gouvernement veut faire, ne permet pas de démocratiser. Mais il faudra y arriver un jour.
On espère qu'on va y arriver un jour. Une autre actualité, sénateur, c'est la session extraordinaire au Parlement, session qui prendra 30 jours et plusieurs points sont à l'ordre du jour, parmi lesquels le projet de budget 2010 qui a été renvoyé.
Oui.
Au Parlement.
Oui.
Comment vous analysez l'acte posé par le président de la République ?
La motivation, la raison qui a motivé cela, c'était que ce budget ne tenait pas compte suffisamment de problèmes sociaux.
Mais vous avez quand même adopté ça au Parlement ?
Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pris la parole au Sénat. Je n'ai pas voté ce budget. Tout mon groupe n'a pas voté ce budget. Et moi, j'ai dit, c'était public, que ce budget était antisocial. En fait, donc le chef de l'État, c'est venu d'analyser son acte, nous rejoint, nous donne quelque part raison. Malheureusement, nous craignons qu'on ne puisse pas y changer grand-chose au jour d'aujourd'hui. Parce que le problème qui se pose, c'est au niveau des recettes additionnelles, qui ne représentent que 2% des recettes. Ça ne doit pas changer grand-chose. D'autant qu'en face, vous avez des exigences de la Banque mondiale. Et surtout du Fonds monétaire international. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous avons des objectifs, le point d'achèvement, nous voulons l'annulation de la dette, nous voulons le programme avec les FMI. Donc tout ça, ce sont des contraintes qui pèsent, malheureusement. Malheureusement, et qui ne changera pas grand-chose.
Sénateur, lorsque vous circulez à la cité, vos électeurs sont quand même déçus. Ils se disent que les députés, les sénateurs travaillent pour leur propre intérêt et non plus pour l'intérêt du peuple, comme promis dans les campagnes électorales.
Mais écoutez, nous, on n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas nous qui agissons sur le terrain. Nous proposons qu'on change la situation de fonctionnaires. Nous proposons qu'il n'y ait plus de justice sociale. Qu'il y ait plus d'écoles, plus d'universités, plus d'hôpitaux, Mais si en face on nous dit qu'il n'y a pas le moyen de faire tout ça, que voulez-vous ? Je peux comprendre la déception des gens. D'autant qu'il y a eu une campagne qui a été menée de façon plus ou moins délibérée contre les députés et les sénateurs, faisant croire que c'est eux qui gagnaient des rémunérations, indemnités colossales, ce qui est complètement faux. Et ce qui se passait à l'Assemblée nationale, c'était simplement que les députés ont voulu réajuster le taux, la parité du franc et du dollar, parce qu'on était payé toujours à l'ancien taux. Donc on a dit non, c'est le nouveau budget, donc on réajuste suivant les nouveaux taux. Et ça, effectivement, ça a gonflé l'enveloppe. Mais il n'y a eu à aucun moment...
Mais est-ce que vous avez fait ça aussi pour les fonctionnaires de l'État ?
Mais c'était pour l'ensemble du budget. C'était pour l'ensemble du budget, pas uniquement pour les rémunérations. Le vice-premier ministre Bongeli s'est excusé au nom du gouvernement vis-à-vis des députés, parce qu'on a dit trop de choses complètement fausses. Nous ne pouvons pas changer la rémunération. Les députés ne peuvent pas changer leur salaire comme ça. Non. Le souhait, notre souhait, ce pour lequel nous nous battons jour et nuit, c'est que la situation des fonctionnaires change. On ne peut pas avoir une administration avec la rémunération qu'on accorde actuellement aux fonctionnaires. Il faut donc que les choses changent. Nous comprenons qu'il faut être en programme avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Mais il faut justement renforcer la capacité du pays à la fois à discuter avec le Fonds monétaire international et aussi à dégager de nouvelles ressources. Et aussi à voir qui travaille effectivement dans l'administration.
Monsieur le sénateur, comment vous passez vos moments de détente ?
Oh, j'ai très peu de détente, malheureusement. Mais comme tout être humain, il faut de temps en temps arrêter. Quand j'arrête, j'essaie d'aller loin de Kinshasa, à 60 km, 80 km d'ici.
Méditer ?
Oui, mais divertir. Et libérer un peu l'esprit de tout ce qui nous encombre tous les jours, toutes les semaines.
Et qu'est-ce que vous aimez manger ?
Ah, ma nourriture préférée, c'est le pondou. Je vous ai dit que j'ai fait 12 ans à l'internat. Eh bien, pendant 12 ans, tous les jours.
C'était le pondou ?
C'était le pondou.
Accompagné de quoi ? Du riz ?
Du riz.
Foufou ?
Le foufou, non. Ça, je déteste, hélas. Je suis désolé pour mes frères du Katanga, du Kasaï et du Bakongo. Ça, le foufou, je ne supporte pas beaucoup.
Vous avez le temps d'écouter la musique ?
Oui, mais malheureusement, je ne suis pas très mélomane, mais j'écoute la musique, oui, la musique congolaise, les jeunes musiciens, même si ce qui se passe à la télévision me déçoit beaucoup.
C'est-à-dire ?
Il n'y a plus la qualité, ni sur le plan chorégraphique, c'est toujours le même geste, j'ai la même gesticulation, et ce qui réalise n'ont plus beaucoup d'imagination non plus, c'est toujours le même plan, toujours la même chose, toujours de jeunes filles... légèrement vêtue, en train de se déambuler. Ça manque vraiment d'inspiration. Je crois qu'il y a un effort à faire de ce côté-là.
Nous sommes à la fin de notre entretien. Un dernier mot par rapport à la gestion du pays.
La gestion du pays, nous sommes en session budgétaire. Donc, je vous ai dit que nous nous sommes abstenus d'adopter ces budgets, parce que les budgets, c'est l'expression chiffrée d'une politique. Nous ne sommes pas d'accord avec cette politique. Notre vision des choses, c'est qu'il faut véritablement instaurer l'autorité de l'État. Nous avons une notion de l'indépendance du pays qui est faite de beaucoup d'intransigeances. Nous avons une idée de la justice sociale qui n'est pas appliquée. Nous avons une idée également du développement économique qui actuellement manque de rigueur. La monnaie, stabilité monétaire. Et puis, après, c'est la distribution. Évidemment, on ne peut pas distribuer si on ne produit pas. Donc, il faut renforcer la production agricole. Il faut mettre en place le crédit qui n'existe pas. Il faut mettre en place une politique social, pas simplement en payant mieux les gens, mais en améliorant les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, mais aussi en développant le logement social. Donc, tout ça, peut-être que ça se fait, mais ça a des doses homéopathiques. Il faut que ce soit de manière vigoureuse. Il faut que ce soit une politique pensée et mise en œuvre de façon déterminée, forte, visible. C'est ce qui manque. Et notre souhait est que cette politique arrive à changer demain pour que le Congolais qui vit dans un pays véritablement béni, véritablement riche, puisse connaître enfin le bonheur, la prospérité. Et je pense aux gens de chez moi, des Boutas dont je vous ai parlé, qui eux vivent de façon tout à fait presque enclavée. Vous ne pouvez pas aller par la route jusqu'à Bouta. Moi j'ai envoyé une ambulance de Kisangani à Bouta. Ils ont fait 6 jours pour 600 km. C'est triste. Moi, quand je suis arrivé là-bas, après une longue absence, je ne retrouvais même pas le minimum que j'ai connu
30 ans avant.
30 ans avant.
Je ne dis pas que c'est la responsabilité du gouvernement actuel. C'est une responsabilité collective. Alors, il faut que collectivement, nous prenions conscience de ce qui ne va pas pour que nous puissions redresser la situation. Il faut qu'on puisse repartir. Ça ne redémarre pas. C'est vrai qu'on voit des travaux maintenant, des routes et tout ça. C'est bien. Mais il faut aussi de la planification. C'est de ça que nous avons besoin. C'est ce que moi, en ces débuts d'année, je souhaite en tout cas. Je souhaite à tous nos compatriotes et du fond du cœur.
Monsieur le sénateur Ramazani Baya, je vous remercie et vous souhaite les vœux les meilleurs pour cette année 2010.
Merci beaucoup, je vous souhaite la même chose et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
Merci. C'est la fin de cette émission. Raymond Ramazani Baya a été l'invité des grands témoins, ancien ambassadeur de la RDC en France et ancien ministre des Affaires étrangères et coopération internationale dans le gouvernement de la transition. Il est actuellement sénateur. Moi, c'est Kéline Kouté à la présentation. La technique était assurée par Dieudonné Nyangasa. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net où vous avez la possibilité d'écouter toutes les émissions passées des grands témoins contre deux programmes sur la séquence de la paix.